Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Bonjour, dans cette rubrique mot pour mot, Jean Pruvot traite de l'étymologie et de l'histoire de deux mots, dabu et crocodile.
Dabu ou daru ? Dans nos dictionnaires du XVIIe et du XVIIIe siècle, il est des mots pour le moins surprenants. Ainsi en est-il du dabu dans le dictionnaire universel de 1690, qui est défini de la manière suivante. Dabu, sorte d'animal qui naît en Afrique, qui est de la grandeur d'un loup et presque de la même forme, mais il a des pieds et des mains comme un homme. Cet animal fantastique, aux extrémités semblables aux nôtres, serait-il l'ancêtre du dahu ou du daru, l'animal imaginaire proposé aux personnes crédules pour une partie de chasse, d'où elle rentre bien sûr toujours bredouille. De fait, le dabu en question n'a pas l'air très fréquentable malgré ses ressemblances morphologiques à l'espèce qui est nôtre. Ainsi, on nous précise qu'il a la fâcheuse habitude de tirer les corps morts des sépulcres et de les manger. Voilà qui est sinistre. Mais ce nouveau Dracula n'est cependant pas insensible à la musique. Il est si charmé du son des trompettes et des timbales que c'est en jouant de ces instruments que les chasseurs le prennent. Il faut en vérité attendre le XIXe siècle avec le grand dictionnaire universel de Pierre Larousse pour débusquer l'animal et apprendre qu'il n'est autre que l'hyène rayée. Dabu étant en effet un des noms qu'en Afrique du Nord on donne au dit animal. À ce titre, l'hyène dont il est parlé dans le Cinquième Testament n'est pas pour autant blanchie. Ainsi, Brunetto Latini, érudit italien du XIIIe siècle, dans le Livre du Trésor, ouvrage écrit en langue d'Oyle, évoque en ces termes le charmant mammifère. Hyène est une bête qui une fois est mâle et autrefois femelle, et habite en les cimetières et mange les corps des morts. Que ce carnassier africain soit le fossoyeur des bêtes blessées, soit. Mais de là à confondre ces griffes fuisseuses avec nos pieds et nos mains, le pas reste tout de même grand à franchir. Cependant, ça s'explique peut-être simplement si l'on se souvient que le dabu était également le nom donné par quelques tribus berbères aux babouins. Qu'il y ait eu confusion entre les deux dénominations au XVIIe siècle est à dire vrai plus que probable. Alors, n'assimilons plus le dabu au dahu ou daru, et continuons en toute naïveté et toute innocence de faire la chasse à ces deux derniers. Sans illusion néanmoins, parce que le dahu, D-A-H-U ou daru, attesté dès le XIXe siècle, correspond selon toute vraisemblance au croisement d'un mot d'origine inconnue, darutu, avec le garou, du loup-garou. Alors, si l'on vous invite à chasser le dahu, n'oubliez pas de vous rassurer en criant « Loup, y es-tu ?» Chien, animal fort connu, qui est fidèle, reconnaissant, docile, propre à diverses choses, qui est en amour environ 14 jours, qui naît aveugle, qui vit 10 ou 12 ans, et qui a de l'aversion pour les crocodiles et pour les loups. Nous devons cette merveilleuse définition au tout premier dictionnaire monolingue de la langue française, rédigé par Pierre Richelet, le dictionnaire français contenant les mots et les choses, publié donc en 1680. Rappelons en effet que, auparavant, les recueils lexicographiques étaient tous multilingues, le plus souvent bilingues, français-latin en particulier. On se souvient peut-être que le secrétaire perpétuel de l'Académie française, en exercice dans les années 1970, Jean Missler, s'était exclamé au cours de la séance publique du 19 décembre 1974 à propos de cette définition du chien dans le dictionnaire français, définition qu'il avait frappée. Richelet nous apparaît ici comme un précurseur du surréalisme. Il est vrai que cela n'est pas sans poésie. Richelet ne nous précise d'ailleurs pas s'il s'agit de ce que l'on appelait alors un chien de manchon, c'est-à-dire un chien de la chambre, pour le divertissement des dames qu'on nourrit pour leur petitesse et leur beauté, ou bien d'un de ces chiens gris, qui savent faire tous les métiers et courent toutes sortes de bêtes. Au reste, ne comptez pas trop sur le chien si par inadvertance vous croisiez un crocodile. La fidélité du chien serait alors durement mise à l'épreuve. Au XVIIIe siècle, les jésuites du dictionnaire de Trévoux rappellent la sévérité des Romains lorsque le chien manquait à la confiance dont on l'honorait. Le chien est le symbole de la fidélité. Et parce que les chiens qui étaient dans le Capitole se trouvèrent tous endormis lorsque les Gaulois y donnèrent l'assaut, et que ce fut par le cri des oies que les Romains furent réveillés, en punition de ce manque de fidélité et de vigilance de la part des chiens, on avait coutume à Rome de pendre un chien tous les ans et de le montrer par la ville en cet état, tandis que l'on conduisait une oie dans une litière fort propre. À bon entendeur, canin, salut !